experts et apéros de réseautage sont au programme. Vivez un événement de partage et d'apprentissage sur le vivre ensemble, centré sur l'intervention interculturelle auprès des jeunes. Inscrivez-vous gratuitement au motivactionjeunesse.com. Ensemble, faisons rayonner le changement. Ça commence le 22 novembre au sommet Résonance.
Pour les débuts de soirée, le Cosmos a tout qu'un deal pour vous. La promo 50-50, c'est 50 % de rabais sur 50 % des plats du menu. Salade, pâtes, burger et plus encore. Bien manger à moitié prix, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h dans vos deux restaurants Cosmos, sur le boulevard Laurier et le boulevard des Galeries.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, et le volume à planche.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, Boulevard Bastien à Québec et Avenue Taniata à Lévis.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes, puisque c'est les lundis avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, bonjour!
Bonjour Yannick, ça va bien ce soir?
Ça va très bien. Vous avez passé un beau week-end?
Oui, tout à fait. C'est pas mauvais les week-ends, mais moi, c'est deux jours. Il y en a que c'est trois, hein, de plus en plus.
Ouais.
Il y en a que c'est quatre même. Alors, c'est la grosse mode, là, les semaines de quatre jours. Alors, bravo à ceux qui ont réussi à obtenir ça, parce que trois jours de repos, quatre jours de travail, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise idée.
Oui, ça vous chicote-tu des fois de le faire? Parce que vous pourriez vous l'offrir, un genre de quatre jours de travail, trois jours de congé. C'est-tu le genre de choses qui vous chicote une fois de temps en temps?
Oui, c'est de plus en plus, c'est sûr. À 67 ans, je t'avouerai que des fois, ça nous tente moins. Mais moi, dans le cas, dans mon travail, évidemment, il y a les tribunaux et il y en a plusieurs. Alors, ils ont chacun leur horaire et il y a la plupart des tribunaux siègent les lundis, les vendredis. Alors, c'est sûr que si t'as quatre audiences lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais le vendredi, il faut que tu mettes des entrevues parce qu'il y a des gens qui veulent me voir, des clients, des nouveaux clients. Alors, je suis obligé de les mettre dans des journées où j'ai pas de cours, ce qui fait que ça devient cinq jours facilement, sans compter qu'il peut y avoir des audiences les lundis et les vendredis. Alors, c'est très difficile, mais je te dis pas que ça se planifie pas. Si je décidais, par exemple, sur semaine de ne pas rentrer un mercredi ou un mardi. Mais là, il y a aussi une question. Tu sais, quand tu es rendu en novembre, ça dépend aussi du temps qu'il fait, ça dépend de bien des choses. T'sais, si t'as une journée de 8-9 degrés en novembre, ensoleillée, ben là, c'est le fun, mais tu peux pas toujours prévoir d'avance. Normalement, la température, on l'a pas avant 48 heures pour dire qu'on est relativement fiable. Alors, si tu prévois une journée un vendredi puis qu'il tombe des cordes ou qu'il neige à plein ciel, peut-être que tu vas le regretter un petit peu. Alors, il y a des journées où on peut faire moins de choses, mais c'est sûr que pendant l'été, on a plus de chances d'avoir de la chaleur.
Oui, bien, c'est ça. Tu sais, peut-être que l'hiver, on pourrait prendre un 5-6 jours de travail par semaine, puis que l'été, on pourrait s'en permettre 2-3, qui sait, tout dépendant de la température. Alors, on refait le monde, Maître Bellemare, mais j'ai l'impression aussi que les nouvelles générations ont intérêt, tu sais, c'est bien ancré en eux de travailler trois jours par semaine, puis d'avoir un trois jours de congé où ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations. Peut-être même être plus présent avec leurs enfants. Ça fait toujours bizarre de dire ça parce que j'essaie d'être le plus présent pour mes enfants. Puis je me dis, si je travaille, nécessairement, je vais être capable de subvenir aux besoins de mes enfants. Mais les gens qui sont capables de se permettre un 4 jours de travail puis un 3 jours de congé, qui sont plus présents envers leurs enfants, j'ai envie des fois un peu. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est générationnel puis que nous autres... On n'est pas encore rendu là, Maître Bellemare. On est peut-être...
Non, c'est ça. Ouais. On est plus ventre à terre dans le travail, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est comme les médecins qui prennent leur retraite aujourd'hui, les clients souvent me disent ça. Écoute, mon médecin prend sa retraite, c'est la dernière fois que je le vois demain matin. Bien, alors ça, c'est un médecin de 65 ans qui a 3 000, 3 500 patients.
Ouais.
Alors, trouve-moi un médecin de 35 ans aujourd'hui qui a 3000, 3500 patients, tu n'en trouveras pas.
Ah non, puis...
Alors, ça, c'était une pratique de l'époque, à l'époque où les médecins travaillaient 70-80 heures par semaine puis qu'ils voyaient 60 patients par jour. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a une pénurie en partie, c'est peut-être une explication. Mais ça montre un peu au niveau des générations comment on considérait le travail. Moi, dans mon temps, le travail, c'était sacré, c'était la fonction numéro un de l'individu en Occident. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des différences. La génération d'aujourd'hui là, estime qu'il faut respirer à fond un peu plus souvent.
Oui, parlant de génération, moi, dans les années 80, le mot intimidation n'existait pas. Puis, je sais pas, peut-être fin 90, début 2000, on a commencé à arriver avec ce mot-là, intimidation. Tu sais, ça a toujours existé, l'intimidation. Ça existe dans la nature, ça existe chez les enfants, ça existe chez les êtres humains, ça existe chez les personnes âgées. Je voulais vous poser cette question-là. T'sais. Quand vous êtes arrivé en politique, est-ce que vous faisiez face à énormément d'intimidation? Puis même pendant votre carrière d'avocat, il y avait des leaders d'opinion, des fois, qui n'étaient pas du tout d'accord avec Maître Marc Bellemare, qui décidait de se coltailler un peu avec. L'intimidation, vous avez perçu ça comment? Puis comment vous déliez avec ça, l'intimidation, quand vous étiez en politique?
Bien, moi, je n'ai pas vécu ça, Yannick. J'ai des désaccords, oui, des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, que ce soit au sein même du gouvernement ou bien dans la population. C'est normal, mais je n'ai pas eu d'intimidation dans le sens des menaces ou si tu ne fais pas ci, tu vas avoir ça, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et c'est sûr que dans mon propre gouvernement, il y avait des désaccords, puis il y avait des pressions qui étaient exercées de la part de différents individus, notamment le premier ministre, mais je ne peux pas parler d'intimidation dans le sens... parce qu'il y a toujours une menace dans ma définition à moi de l'intimidation.
Ouais.
C'est qu'on dit, ben là, si tu ne fais pas ci, tu vas avoir ça, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ça, on va s'en prendre à ta famille, on va s'en prendre à ta réputation d'une certaine manière... on va dire des faussetés sur toi. Moi, j'ai pas eu ça. Et faut dire que les réseaux sociaux étaient un petit peu moins virulents à l'époque qu'aujourd'hui.
Mais la radio,
moi, je pense que depuis la pandémie, il y a des gens qui se lâchent l'os un peu plus.
Mais la radio était très forte, Maître Bellemare. Tu sais, quand il y avait un leader d'opinion qui prenait un politicien en grippe, là, c'est la moitié de la ville qui était au courant de ça. Puis il y avait des fortes pressions qui étaient faites sur le bureau du député ou encore du maire en question. Tu sais. Et ça existait là, dans votre temps. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est que on a fait un bilan d'élection Québec là, on s'est aperçu que depuis 2021, il y a 741 élus qui ont quitté leur poste depuis les élections municipales de 2021. 741 élus qui ont dit « Non, finalement, c'est pas pour moi, je quitte. » Dont une jeune mairesse, là, c'est la mairesse de Chappais, je ne me trompe pas, 22 ans, a dit « Moi, c'est beaucoup trop de pression pour moi, je n'étais pas préparé à ça, j'avais pas d'aide extérieure pour me montrer le travail que j'avais à faire, je trouve la tâche beaucoup trop lourde, puis pour des raisons de santé mentale, je veux garder toute ma tête, ben je quitte le poste de mairesse alors qu'elle s'était engagée pour 4 ans. » 741 élus, puis en même majorité, les élus disent, nous, c'est vraiment l'intimidation qui fait en sorte qu'on quitte. Là. Est-ce que c'est une bonne raison? Je le sais pas. Je ne suis pas sûr comment je réagirais si jamais on menaçait ma famille. Je pense que je deviendrais peut-être dangereux à ce moment-là. Mais je trouve que c'est un gros chiffre. C'est-tu parce qu'on devient...
Oui, c'est un gros chiffre.
On devient-tu plus moumoun, Maître Bellemare? On est-tu comme...
Moi, je pense qu'il faut regarder un peu la méthodologie aussi dans un premier temps, savoir, 700... quelques élus sur l'ensemble des élus du Québec. C'est sûr qu'il n'y a plus d'élus aux commissions scolaires maintenant, ça n'existe plus. Les élections scolaires, mais municipales, provinciales, fédérales, les MRC, etc. Bon, est-ce qu'il y a combien qu'il y a d'élus au total et qu'est-ce que représente 700 quelques sur l'ensemble des élus, première chose. Deuxième chose, peut-être avoir des comparables sur le nombre d'années, voir à quoi ça ressemblait il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
Ouais. Ben, ils disent que c'est
par
jamais
aujourd'hui.
Ça n'a jamais été aussi élevé. Là. L'article est sorti vendredi, puis de ce que je vois, c'est que c'est la première fois depuis qu'on fait le recensement des élus ou des démissions, qu'on voit un chiffre aussi élevé. Ouais. C'est parce que les gens, les citoyens s'en permettent plus, se permettent de dire, ben, t'as peu,
ouais, sûrement.
Je suis insatisfait du déneigement, je suis insatisfait du ramassage des ordures, puis que là, ben, ça fait en sorte que les élus municipaux sont bombardés de questions puis de commentaires, ça leur fait ben de la peine.
C'est peut-être plus au niveau municipal, effectivement, mais écoute, je regarde aujourd'hui, d'abord, il y a la pandémie. En 2021, il faut comprendre que le shutdown COVID est tombé le 13 mars 2020. 2021, on est en pleine pandémie. Il me semble qu'il y a eu un couvre-feu aussi à Noël en 2021 ou au jour de l'an. Donc, ça a été une année difficile. Mais il faut comprendre que les élus municipaux sont à peu près pas payés. Là, tu sais, c'est des peanuts. Là. Ces gens-là s'engagent vraiment pour des questions de principe. Et le gouvernement de proximité, c'est vraiment le gouvernement municipal au Québec. C'est lui qui s'occupe des poubelles, c'est lui qui s'occupe des parcs, c'est lui qui s'occupe des piscines, c'est lui qui s'occupe du transport local. Les gens ont la mèche courte. De plus en plus, tu appelles dans les bureaux de médecins, dentistes, et gouvernementaux, puis tu as un message qui dit nous vous demandons de respecter notre clientèle, puis c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont arrogants, qui sont violents, qui sont impatients, puis on dirait qu'on n'a plus cette espèce de retenue-là qu'on avait il y a 10-15 ans, et moi je pense que la pandémie a joué un rôle, les gens sont excédés, il y a beaucoup de couples qui se sont brisés, il y a beaucoup d'emplois qui se sont perdus, il y a beaucoup de réorientations qui ont été imposées. Ça se traduit par un changement de comportement. Puis, évidemment, quand les gens ont l'opportunité de se défouler sur un élu, ils le font en pensant que c'est la bonne méthode. Mais l'absence de rémunération adéquate, le fait aussi que quand on dit gouvernement de proximité, à Québec, c'est sûr qu'il y a un gouvernement local, mais qui est quand même une ville d'une certaine dimension. Mais c'est à Sainte-Marie-de-Beauce, puis à Pintendre, puis Sainte-Félicité-de-Matane, peut-être que tu risques de rencontrer ton élu municipal au coin de la rue ou tu risques de le rencontrer chez IGA, là, ouais, ou chez le dentiste. Mais parce que la proximité, c'est pas juste dans le cadre de tes fonctions, c'est tout le temps. Il y a des gens qui viennent cogner chez vous le dimanche matin, des gens qui viennent, qui sont insatisfaits du zonage. Alors, c'est sûr que plus c'est près, plus t'as l'élu municipal au bout de ton nez, plus tu risques de perdre patience, puis s'il n'est pas d'accord avec toi, de le clencher en plein CLSC. Alors oui, moi je pense que ça joue, puis dans la mesure où les gens n'ont pas vraiment, au-delà de la passion pour leur communauté, un intérêt réel pour s'engager en politique, ils veulent changer des choses, ils veulent améliorer, ils s'investissent, ils se font rentrer dedans, les enfants se font rentrer dedans, bien écoute, Yann, ils décrochent puis ils s'en vont faire d'autres choses. Ouais, mais gens-là, souvent, vont ajouter les fonctions municipales par-dessus un emploi puis leur charge familiale. Ouais. Fait que faut pas trop les écœurer.
Mais c'est ça. J'excuse pas les charges qui sont à l'encontre des élus municipaux. J'ai l'impression que, tu sais, ça existait, tout ça, cette intimidation-là dans les années 60, 70, 80. Mais on dirait que les gens, maintenant, sont un peu plus fragiles, tu sais, prennent conscience peut-être qu'il peut y avoir du danger. La semaine dernière, c'est la jeune mairesse Catherine Fournier, qu'on a connue en politique provinciale, qui a dû être placée sous protection policière dans le dossier des fameux chevreuils à Longueuil. Des citoyens qui allaient nourrir des chevreuils dans les parcs. Donc, dans le parc en question, les chevreuils n'avaient plus besoin nécessairement de sortir. Ils avaient juste à rester là, puis il y avait de la nourriture. Donc, ils se sont reproduits. Puis ça a fait en sorte que le parc est devenu trop petit pour la population de chevreuils. Donc là, les chevreuils, une fois de temps en temps, ils veulent sortir pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, ben, ça a un impact sur la circulation automobile. Puis parfois, ben, il y a des collisions qui se font. Donc, ils ont pris une décision, c'est-à-dire on va tuer les chevreuils dans ce parc-là, parce que ça n'a plus de bon sens. Et là, il y a des gens qui ont fait des menaces de mort à Catherine Fournier, puis elle a dû être placée sous protection policière. Un autre, un ancien conseiller municipal qui donnait une entrevue la semaine dernière, qui disait c'est quelque chose qui marque là, ce type de menace-là. On s'en prend pas nécessairement à nous physiquement, mais on nous charge. Exemple, en voiture, lorsqu'on est sur le trottoir ou qu'on est sur la route, un Claude Grenier, entre autres, qui donnait une entrevue qui disait « ben moi, il y a une moto qui m'a chargé, qui a essayé de me rentrer dedans pendant que je traversais la rue pour m'intimider. » Puis il y a de nombreux commentaires aussi, Facebook, courriel, qui font en sorte que les maires et mairesses se font traiter d'incompétents. J'ai l'impression qu'on a la couenne un peu moins dure que nos aïeux des années 40, 50, 60, 70, 80. Et eux autres, ils restaient là jusqu'à la fin, du moins, là.
Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est les chevreuils à Longueuil, là, entre toi et moi, c'est une fonction qu'on pourrait qualifier de paramunicipale. On s'entend que c'est pas partout dans toutes les villes. Le maire Marchand a fait une sortie il y a quelques mois, peut-être un mois et demi, pour dénoncer ce genre de comportement des individus qui n'avaient pas de bon sens, l'intimidation dans le cadre des projets municipaux importants. Oui, on vit une période difficile. C'est pas facile pour personne. Puis les élus, comme je te disais tantôt, c'est souvent des pinottes, c'est des allocations, des jetons de présence dans les petites municipalités. Est-ce que ça va se traduire par une revendication qui va faire qu'on va payer plus cher encore? Parce que très souvent, c'est du cheap labor. C'est les gens, ils vont, même pas pour la notoriété, ils vont parce qu'ils veulent changer des choses dans leur communauté, ils veulent s'investir. Puis plus la communauté est petite, plus elle est éloignée des grands centres, plus l'intimidation risque d'être difficile à vivre, puis plus elle risque de se situer à différents niveaux de ton vécu, les enfants à l'école, les voisins, la parenté, l'équipe de hockey locale, tu risques de te faire écœurer. Puis moi, je comprends les gens de décrocher puis de vouloir faire d'autres choses dans ces situations-là, mais la solution n'est pas facile à trouver. Je pense pas que ça passe nécessairement par une augmentation de la rémunération, bien que c'est peut-être que le gouvernement va regarder ça. Mais il reste que, effectivement, tu sais, surtout quand tu n'as pas de corps de police municipal, la mairesse de Longueuil, elle a un corps de police municipal à Longueuil qui est quand même un des plus importants au Québec. Mais, je sais pas, moi, les services de police en Gaspésie, puis au Lac-Saint-Jean, Albanel, au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de police municipale, là, c'est la sûreté. Fait que c'est encore plus loin pour la protection des élus. Si l'élu là-bas demande une protection policière, je ne suis pas sûr qu'il va l'avoir, puis qu'il va l'avoir adéquatement, puis qu'il va l'avoir à temps plein. Alors, c'est un phénomène qui est inquiétant pour notre démocratie, Yann.
OK. Est-ce que vous allez aller voir au mois de, je me rappelle pas, c'est mois de septembre, octobre, les matchs pré-saison des Kings de Los Angeles? Il y a Boston qui va être en ville dans les prochains mois. C'est donc, bon Dieu, que c'est excitant. Allez-vous être au centre Vidéotron?
Non, j'irai pas, Yann. J'irai pas voir les Kings de Los Angeles.
Mais vous êtes un fan de hockey,
Oui, j'ai eu des billets de saison, moi, au Centre Bell jusqu'en 2019, pendant une quinzaine d'années. Fait que s'il y a un fan de hockey, c'est bien moi. Puis je me déplaçais des fois, deux, trois fois par semaine pour aller voir les matchs au Centre Bell. Mais d'abord, je comprends pas pourquoi le gouvernement a fait cette annonce-là maintenant. Il aurait pu la faire au mois de mai. Là, il fait ça en pleine négociation. On sait qu'il y avait un mauvais message qui avait été envoyé quand ils sont augmentés les salaires de 30 % juste avant les négos. Écoute, y a-tu quelqu'un qui raisonne dans ce gouvernement-là? Y a-tu quelqu'un qui conseille M. Legault? Et le ministre des Finances, qui est assis à côté de Luc Robitaille pour annoncer cet événement-là, c'est le ministre Girard qui vient de faire un énoncé politique pour dire qu'on n'a plus une scène.
Et qu'on doit se serrer la ceinture.
Exactement. Et vendredi passé, Sonia Lebel, qui négocie avec les gouvernements, fait une sortie publique pour dire que cette question-là, les investissements dans les événements publics, les événements touristiques, sont normaux. Elle a négocié avec les fonctionnaires, puis elle leur dit qu'on n'a pas une scène. Puis la ministre Guilbeault des Transports qui dit on ne fera plus de troisième lien parce qu'on n'a pas une scène, entre autres. Puis le tramway, ça coûte trop cher. On va donner 5 à 7 millions pour inviter des équipes de la Ligue nationale. Moi, je suis d'accord avec le hockey, puis je trouve ça bon, mais je questionne le timing qui, à mon avis, est tout à fait mauvais, et je pense que c'est de la part d'un gouvernement immensément majoritaire, ça nous surprend, bien que ça me surprenne de moins en moins, parce qu'ils font tellement d'erreurs que ça, c'en est une de plus, tout simplement. Mais les clubs qui ont été choisis, les matchs pré-saison, on ne sait pas ce que ça va coûter. Hein? Est-ce qu'on va payer en double? Parce que là, on paye 7 millions par nos impôts. Mais est-ce qu'on a eu les prix des billets, Yann? Est-ce qu'on sait combien ça va coûter?
Ah, c'est entre gratuit, là. 60, mettons, de mémoire, c'est entre 70$ puis 170$, là, autour de ça, à peu près.
Oui. Ouais. Bon, OK. Alors, ça veut dire que finalement, on va payer, ceux qui vont y aller vont payer en plus.
Oui.
Bon, les événements touristiques, là, tu sais, je regarde le tournoi Pee-Wee de Québec, que ce soit 250 000 du gouvernement du Québec.
257 000 $, c'est des millions et millions de dollars à retombées économiques.
Puis Patrick Dom doit être furieux, je sais pas.
Fâché. Il n'est pas fâché de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'était pas, pas fâché de ça. Lui, il reçoit 257 000 $. Ça donne à peu près 15 millions de dollars en retombées économiques. C'est énormément de nuitées à Québec, c'est énormément de restaurants, c'est énormément de transports. Puis avec 250 000, il réussit à faire ça. Là, nous, on va devoir défrayer entre 5 et 7 millions pour faire venir des millionnaires pour jouer au hockey à Québec qui ont comme propriétaire un multimilliardaire. C'est assez particulier comme situation. On en avait parlé, Maître Bellemare, mais le soir où François Legault a pris la parole, lors de la défaite dans Jean Talon, il paraissait fessé. Puis j'ai toujours tendance à me méfier un peu des politiciens, vous comprendrez, mais il paraissait fessé. Puis le lendemain, il était encore fessé. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que le premier ministre soit aussi frappé que ça? Eux, ils avaient vraiment l'impression qu'ils allaient passer la gratte dans Jean Talon. Puis là, ils se sont fait dire, non, on veut rien savoir de vous autres. On va vous montrer que c'est terminé de faire rire de nous. Puis depuis ce temps-là, on dirait que, pardonnez-moi le jeu de mots, là, mais on dirait que le train a complètement déraillé. La ministre Guilbeault qui commence à penser comme le payeur de taxes. Jonathan Julien qui dit, ben le troisième lien, ça avait bien du bon sens finalement. Puis le tramway, ben c'était assez ordinaire. Et on dirait qu'il y a un stress à la CAQ présentement. Puis tout ce qui était fait avant, qui était bien fait dans l'ordre avec les étapes, ben là, ça ne tient plus. Puis ils se mettent les pieds dans les plats à chaque fois. Je ne sais pas Koskinen comment il se sent ces temps-ci, parce que c'est le principal conseiller de François Legault. Je ne sais pas comment Charles Roy voit la situation aussi, parce que c'est un des conseillers de François Legault. Mais actuellement, c'est des mauvais coups par-dessus des mauvais coups. Là. Puis vous le dites, t'sais, Girard dit la semaine passée, « Hey, va falloir se serrer à la ceinture. » Quelques jours plus tard, pouf, 5 à 7 millions pour des millionnaires qui débarquent à Québec, alors qu'on a un club de hockey du Canadien qui est à côté, qui aurait pu venir faire un tour. Ils ont été hypocrites, là, ça fait 5 ans qu'ils n'étaient pas venus ici, puis quand ils ont su que les Kings débarquaient à Québec, ils ont dit « ben nous autres, on aurait pu y aller pour gratuit ». Ce genre de match-là n'aurait pas donné des grosses retombées économiques ben, là. Mais cela dit, la CAQ est en problème ces temps-ci, puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas les grands conseillers, les grands stratèges, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais actuellement, François Legault, ça ne va pas bien.
Oui, puis tu sais, pour la région de Québec, on sait que la CAQ a virtuellement abandonné la région de Québec en envoyant le dossier du tramway notamment, puis du transport collectif en général à Caisse de dépôt. Le troisième lien, on ne sait plus trop où on s'en va. Donc, les gens de Québec ne sont pas de bonne humeur, avec raison. Ils sont très déçus du gouvernement. Ils ont donné un mandat très fort à ce gouvernement-là, sauf quelques solidaires à Québec et maintenant un péquiste dans Jean Talon. En 2022, les gens de Québec ont fait confiance massivement à François Legault, à Geneviève Guilbeault, à toute l'équipe de Québec. Et là, on nous arrive avec ça. Là. Ça fait un peu ticoun. En tout et moi, là, je pense que les gens vont assister à ce match-là qui va avoir lieu dans à peu près un an quand même. On parle d'octobre 2024. Mais ça fait un peu ticoun parce que, tu sais, on met de côté des projets importants, des investissements, des milliards à Québec. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces projets-là, c'est quand même des projets majeurs de transport dans les deux cas. Et le gouvernement perd le comté de Jean Talon solidement. Les gens ont vraiment désavoué la CAQ dans ce scrutin-là dans Jean Talon. Puis là, on nous arrive avec ça en pleine négociation. Le timing n'est pas bon, puis le projet douteux des équipes. Bon, Boston, oui, il y a des fans de Boston à Québec, mais tu sais, les Kings de Los Angeles, écoute bien, c'est le Pacifique. Puis moi, je suis jamais au défi de trouver un chandail des Kings à Québec et des Panthers. Et bon, il n'y a pas une grosse, tu sais, on n'est pas dans des clubs où chéri à Québec, Boston, Philadelphie, Montréal, non, mais c'est vrai, Toronto, il y a des fans importants en bonne quantité dans la région de Québec de ces équipes-là qui ne seront pas là. C'est des équipes qui ont été drôlement choisies, un drôle de choix. Et ça fait un petit coup dans le sens de, c'est comme de nous dire, mais prenez donc un Smarties, on vous a enlevé votre caviar, ah, prenez donc un Smarties.
Mais c'est du
ils
pain.
Nous prennent un peu pour des idiots. Moi, j'ai vu ça comme une insulte plus que comme quelque chose de... C'est pas structurant, c'est vraiment ponctuel, c'est sur deux jours. Donc, c'est un feu de paille.
Mais c'est du pain et des jeux, là. C'est carrément... Ils ont donné du pain et des jeux à la région de Québec en raison du fait qu'il y a un marasme actuellement là, avec les décisions politiques qui se sont prises. Puis, je pense qu'ils sont, ils en sont... Pour ça, au moins, ils en sont parfaitement conscients. Mais là, à un moment donné, les gens vont devoir... vraiment voir ce que c'est que la CAQ, là. C'est du monde qui sont mélangés. Espérons pour la province, du moins, que François Legault reprenne un peu le dessus, puis que pour les prochaines semaines, ça aille mieux que dans ces derniers jours. Maître Bellemare...
Oui, on a parlé, Yann, des arénas en mauvais... Je pense à la semaine dernière, on a parlé des arénas qui sont mal chauffées, mal... Écoute, notre stock immobilier au Québec perd des plumes, là, pas juste les écoles... Pas juste les hôpitaux, notre stock immobilier, ouais. Les routes, les bâtiments, les arénas, il y en a dans tous les villages importants du Québec. Je ne sais pas, moi, je suis maire d'une petite ville où il y a un aréna qui tombe en morceaux. Là. J'aurais aimé ça avoir un 500 000 pour taper ça. Là. Non, mais penses-tu, là?
Oh, ouais, puis juste...
7 millions pour ouais. Ça pour deux jours. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, même pour les arénas dans la région de Québec. On vient de démolir l'aréna de Sillery il y a quelques années parce qu'il était désuet.
Ouais.
Alors, il y en a qui ont besoin d'amour. Alors, cet argent-là aurait pu aussi aller là. Et ça aurait peut-être été mieux considéré que l'annonce des Kings.
Peut-être. Juste l'autre côté du centre Vidéotron, là, l'autre côté de la rue Maître Bellemare, il y a la Bouchée Généreuse. Et la Bouchée Généreuse, il y a de ça quelques années, c'était des centaines de personnes qui servaient. Là, maintenant, c'est des milliers de personnes. Donc, des milliers de personnes chaque semaine qui font la file pour aller chercher de la nourriture. Puis ça ne cesse d'augmenter avec tout ce qui se passe ces temps-ci. Puis là, ben, on donne de l'argent à un propriétaire d'équipe milliardaire. C'est assez dégueulasse, tiens, on va dire ça comme ça. Maître Bellemare, la semaine passée...
Ça veut pas dire qu'on n'aime pas le hockey, là.
Exact.
On est des fans finis de hockey, puis si ça marche pas dans notre gang, ça veut dire qu'imagine ceux qui n'aiment pas le hockey ou qui sont indifférents, c'est encore
pire. C'est ça. La semaine dernière, il y a eu le décès du chanteur des Cowboys fringants. Moi, c'est un groupe que j'aimais, là. Je me suis pas arraché les yeux quand il est décédé. Je trouvais ça extrêmement triste, là. Et il y a eu peut-être un peu de débordement chez certaines personnes qui ont overreacté suite à sa mort. Mais somme toute, c'est un excellent band qu'on a au Québec. C'est un excellent chanteur. C'est une bonne personne. À ce qu'on m'a dit aussi, c'est un gars hyper talentueux. Malheureusement, il est décédé du cancer. Puis on a commencé à parler de funérailles nationales. Qu'est-ce que ça implique, ça, les funérailles nationales? Qui on doit être pour avoir droit à des funérailles nationales? Est-ce que ça doit être un premier ministre? Est-ce que ça doit être, je ne sais pas moi, la lieutenant-gouverneur du Québec? Ça peut-tu être un maire, une mairesse? Qu'est-ce que ça prend?
Bien, c'est la discrétion du premier ministre, du gouvernement, évidemment, de décider ça. Je te donne des noms de gens qui ont eu des funérailles nationales dans le monde culturel. René Angélil, on s'en souvient, ça avait été méga. Gilles Carle, le cinéaste. Jean-Paul Riopel, Fernand Leduc, deux peintres importants qui ont signé Refus Global, notamment. Le poète Gaston Miron en 96, puis Lise Payette et Michel Brault. Alors, eux ont eu droit à des funérailles nationales. Je pense que, oui, Guy Lafleur a eu, c'est le dernier qui a eu des funérailles nationales en mai 2022. Alors, c'est une question délicate. Moi, écoute, je pense que, évidemment, ça prend l'accord de la famille parce que tu ne peux pas commencer à te garrocher dans des funérailles nationales sans avoir l'accord des principaux intéressés. Moi, j'ai été effectivement surpris et touché par le décès de Carl Tremblay, même si les Cowboys fringants, ce n'est pas nécessairement de ma génération, c'est plus celle de mes enfants. Mais j'ai été touché par la vague de... Personnellement, j'ai trouvé ça... c'est un mix émotionnel particulier. Hein? D'abord, un gars sympathique, relativement discret. Hein? C'est pas le gars qu'on voyait sur toutes les tribunes pour parler de ci, parler de ça. Et même s'il était engagé au niveau de la souveraineté,
ouais.
Il était engagé au niveau de l'environnement, il était pas très... on le voyait pas sur toutes les tribunes, puis on le voyait pas sur toutes les quiz de TVA, là. D'une part. D'autre part, il est mort jeune. Tout est là. Le père de famille, 47 ans, un cancer, sa blonde qui est très connue, qui est artiste aussi pour le même groupe, deux jeunes enfants, Repentigny. Alors, tout... Puis ça tombe en novembre, un mois triste, un mois gris, où il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'écouter la télé puis de s'informer d'actualités de cette nature-là. Alors, ça a tombé comme ça. Et il y a évidemment une grande vague de sympathie. Moi, je me souviens de quand John Lennon est assassiné. On a assisté à peu près à ce genre d'affaires-là. C'était le 8 décembre 1980. Guy Lafleur, c'était comme ça. Jean Béliveau, ça a été comme ça. Mike Bossy, il n'y a pas très longtemps, ça a été comme ça.
Oui.
Alors, on dirait qu'on est... On parlait tantôt d'intimidation puis de mèche courte, mais ça rejoint un peu les émotions. C'est que les gens n'ont plus de patience, mais en même temps, ils sont très sensibles. Et là, il arrive cette situation-là. Alors, M. Legault décide de faire des funérailles nationales. Moi, je trouve que c'est défendable dans les circonstances. Gaston Miron en a eu, Riopelle en a eu, donc c'était des artistes. Il faut rendre hommage à nos artistes. Puis les Cowboys Fringants, c'est très identitaire pour le Québec, hein? C'est notre langue.
Oui.
C'est un groupe important qui a vendu plus d'un million d'exemplaires, de disques. Alors, je pense que c'est un bon choix. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été critiqué. Il le fait, il n'y aura pas beaucoup de critiques. Et je pense qu'on va avoir ça, puis ça va permettre aux Québécois là, d'avoir une cérémonie qui va être à la hauteur des sentiments qu'ils avaient pour cet artiste-là.
Je regardais les critères, Maître Bellemare, pour avoir droit aux funérailles nationales. On dit que c'est réservé aux personnalités qui ont marqué la vie politique, culturelle ou encore sociale du Québec. Et ça doit toujours être une décision du gouvernement. Comme on l'a dit la semaine dernière, François Legault a dit « on peut en faire si la famille est d'accord ». Donc, ça rentre dans le cadre là, des critères pour avoir des funérailles nationales. Puis, oui, mais ce que je disais tantôt, moi, je suis triste du départ de ce chanteur-là. Il est malheureusement décédé du cancer. Ça fait en sorte que j'ai comme réécouté un peu plus peut-être sa musique. J'ai écouté les paroles aussi de ses chansons un petit peu plus attentivement dans les derniers jours, dernières heures. Mais les gens sont... Il y a des gens qui sont vraiment plus intenses que d'autres. Là. Vous avez parlé de John Lennon. John Lennon, quand il est décédé, c'était quelque chose. Là. Il y a des gens... l'ancien président américain JFK aussi, tu sais, les gens, ça pleurait au travers de l'Amérique. Des fois, j'ai de la misère à expliquer, moi, ce genre de comportement-là. Je me dis, mais c'est des gens qui sont quand même loin de nous autres. Là. C'est pas des gens qui font partie de nos familles. Mais il y en a qui les pleurent. Il y en a qui les pleurent, puis il faut respecter ça. Mais je trouvais ça un peu particulier. Donc, cela dit, funérailles nationales, voilà, c'est réglé. C'est réservé aux personnalités qui ont marqué la vie politique, culturelle, sociale du Québec. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On est avec Maître Marc Bellemare, bellemareavocat.ca, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST. Si vous en avez besoin, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite. Restez là.
Marceau, le soir.
Marceau, le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien, à Québec, et avenue Taniata, à Lévis.
À Boulevard 102.1, on parle beaucoup, mais on tripe aussi beaucoup sur la musique. C'est dans notre ADN, ça. C'est pourquoi on organise le Combat des bandes 2023.
S'est choisi une chanson sortie en 2023 à Boulevard et jusqu'au 1er décembre, il devra la défendre jusqu'à la mort. Un genre de Hunger Game musical. Parmi les 10 tunes en compétition, laquelle sera couronnée Grande Chanson 2023 de Boulevard 102.1. Restez à l'écoute pour tous les détails. En participant, vous pourriez remporter une des deux cartes cadeaux de 100$ ou 150$ à Place de la Cité. Le Combat des Bandes 2023, une présentation de Place de la Cité qui vous invite jusqu'au 2 janvier à visiter le village Grincheux, un local immersif entièrement décoré sur le thème du Grinch. Rendez-vous près de l'entrée 3 et plongez dans l'univers inspiré de Chouville. N'oubliez pas d'immortaliser le moment. Placedelacité.com.
1, c'est bien. 2, c'est mieux. Mais 3, c'est généreux. C'est pourquoi, du 20 novembre au 10 décembre, IGA des Sources triple chaque don en ligne fait à Centrale Québec et Chaudière-Appalaches. 3 fois plus de support aux 225 organismes. 3 fois plus de soutien aux personnes les plus vulnérables. 3 fois plus de bien dans notre communauté. À l'approche du temps des fêtes, grâce à IGA des Sources, multipliez votre générosité. Donnez à centraide-québec.com.
Viens tester tes connaissances au dimanche quiz de l'Emporium. Avec tes chums, ta blonde, tes collègues, viens voir qui est bon joueur et mauvais perdant. Un dimanche sur deux dès 19h à l'Emporium Microbrasserie. Visite le site web d'Emporium pour connaître la prochaine date.
Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sang sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Cette année, évitez la folie du vendredi fou grâce au Strom Spa Nordique. Jusqu'au 3 décembre, profitez de rabais allant jusqu'à 35%. Détails au stromspa.com.
Quiz! Quelle est la capitale du Bleuet?
Le lac Saint-Jean.
La capitale des baleines?
Tadoussac.
De l'assurance.
Hein?
La capitale de l'assurance, c'est la Ville de Québec. Avec un placement en emploi assuré, mis sur une formation primée sans courir aucun risque. Inscris-toi dès maintenant à l'AEC en assurance de dommages 100% en ligne de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Départ en janvier, détails au vousbrillez.ca.
Ouais, mais est-ce que je gagne un prix quand même ou...
Profitez de l'événement du Vendredi fou chez Gréchy-Scaff pour changer de lunettes. Économisez de 30 à 80% sur toutes les montures à l'achat des verres, ainsi sur les solaires. Jusqu'à 80% de rabais, c'est fou jusqu'au 3 décembre. Jacinthe Laurendeau, opticienne. Détails et rendez-vous sur greche-scarf.com.
Vous êtes tanné d'avoir froid l'hiver et d'écourter vos journées de ski? Découvrez Avalanche, la référence en vêtements d'hiver au Québec depuis 40 ans. Manteaux et pantalons abordables conçus pour nos hivers et des accessoires pour rester au chaud de la tête aux pieds. Rendez-vous chez Avalanche. Chaleur, confort et performance. C'est le décompte du Vendredi fou chez Club Jouet. Un rabais fou mystère dévoilé à chaque jour. Aujourd'hui seulement, 20% de rabais sur les Lego. Club Jouet fête ses 30 ans et c'est vous qui en profitez. Sur Bouvier ou au clubjouet.com.
À Boulevard 102.1, la semaine, on vous jase de tout ce qui se passe dans votre ville et ailleurs.
Côté actualité, un autre gros matin.
On le fait-tu ou on le fait pas? Il va déjà y avoir plus d'un milliard de dollars d'investissement.
On supporte et on épouse la cause.
Puis on joue du rock. La fin de semaine, ben, on joue plus de rock. Le samedi de 8 à 21h, on est all-in anglo avec le meilleur rock de la business.
Boulevard 102.1.
Les sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir. Le soir.
Lundi soir avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, ce soir, on parle encore une fois de plein d'autres sujets qui marquent l'actualité ou encore qui peuvent aider les auditeurs. Obligation parentale ou familiale. Je voulais parler de ça avec vous. Vous m'avez envoyé ce sujet-là. Je trouvais ça intéressant. C'est disponible sur le site de la CNSST. Ça, c'est dans le cas où les gens ont besoin de prendre des congés, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est les... La loi sur les normes du travail, on dit que c'est la convention collective des non-syndiqués. Parce qu'il faut comprendre que si vous êtes syndiqué, puis que là, il y a une grève, là, on sait que cette semaine, il va y avoir dans différents services gouvernementaux des grèves, que ce soit dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation là, qui embarque cette semaine, supposément. Alors, ça va avoir un impact majeur sur les parents. Alors, si tu es syndiqué, évidemment... Normalement, tu as des absences qui sont permises dans ton milieu de travail. Il faut revoir la convention collective. Si tu ne l'es pas, faut savoir que tu as droit, en vertu de la loi des normes, et ça, tous les travailleurs ont droit à ça, une absence de 10 jours par année pour remplir des obligations liées à la garde, l'éducation de son enfant ou l'enfant de sa conjointe.
OK. Ça, est-ce que c'est des absences qui sont payées?
Bon, alors, il y a... Des absences qui sont payées au moins les deux premières journées pour lesquelles tu t'absentes sont effectivement payées. Si on parle maladie, accident, obligation familiale liée à la garde, la santé, l'éducation de ton enfant, donc les deux premières journées pour lesquelles tu t'absentes sont payées.
OK.
Alors, tu as droit à un total de deux journées d'absence payées par année civile. Ça peut être divisé en heures si l'employeur l'autorise. Donc, c'est des journées complètes, à moins que l'employeur accepte que ce soit des demi-journées. Puis ça ne peut pas être reporté d'une année à l'autre. Ça veut dire que pour cette année, c'est 10 congés autorisés et les deux premières journées d'absence sont payées par l'employeur au même tarif. Ça veut dire que si le conflit hypothétiquement se prolongeait jusqu'en 2024, mais là, tu aurais une autre série de 10 jours et 2 jours payés pour 2024. Alors, c'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes techniques rattachés à ça. Dès que vous le savez, vous devez aviser votre employeur puis il doit autoriser votre libération pendant ces journées-là. Alors, si le conflit dure plus que 10 jours, ça veut dire que vous allez devoir faire du sans-solde. Même du sans-solde, c'est pas dit que l'employeur est obligé de vous autoriser. Là, c'est 10 jours par année. Ça veut dire que si le conflit dure 15 jours, il y a des employeurs qui peuvent sanctionner une absence de plus de 10 jours par année. Pour au moins les 2 prochaines semaines ouvrables, là, 5 jours par semaine, on prend pour acquis que la loi sur les normes du travail prévoit des absences possibles et même payées pour 2 jours. Si jamais il y a un conflit avec votre employeur qui n'autorise pas ces libérations-là ou ces paiements-là de salaire, bien là, il faut faire une plainte à la CNESST, c'est-à-dire aller sur le site de la CNESST dans la section normes du travail. Et vous pouvez faire une plainte pour que votre employeur soit sanctionné ou qu'il soit obligé de vous payer ou de réparer là, le non-respect de ces droits-là.
Je travaillais pour une entreprise en Beauce, puis eux autres, à chaque année, ils signaient une convention avec les employés. C'était pas une entreprise qui était syndiquée. Puis nous, on avait le droit à 10 jours de congé de maladie payés par année. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que si vous preniez pas ces fameux 10 jours de congé-là payés pour des raisons de maladie X, bien, au mois de janvier suivant, ils vous repayaient ces jours-là que vous aviez pas pris. Donc, ils prenaient pour acquis que vous alliez les prendre. Si vous ne les preniez pas, bien, ils vous les payaient au mois de janvier. Fait que ça remboursait la carte de crédit. Bien, une partie du moins. Ça dépend comment
il y a des centaines de conventions collectives, Yann, au Québec. Il n'y en a pas une pareille. Dans le secteur public, c'est un peu plus similaire. Bien que le secteur public est en grève, il faut penser que ce n'est pas nécessairement les employés du secteur public qui ont recours à ces mesures-là, d'autant plus qu'ils sont tous syndiqués. Donc, en principe, ils ont droit à des mesures plus généreuses que celles que je viens d'énoncer. Là, je parle des milieux non syndiqués, surtout. Je parle de la serveuse de restaurant. Je parle du livreur dans un restaurant aussi. Je parle de tous ces gens-là dans les magasins, dans les commerces, dans les petits bureaux qui ont des problèmes. C'est pas des congés de maladie. Bien que dans certains cas, il y a peut-être des gens qui vont utiliser des congés de maladie, des banques de maladie, mais c'est toujours risqué si c'est pas pour la bonne raison. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à vos congés de maladie. Vous pouvez avoir recours simplement à des congés d'absence pour garde des soutiens de votre enfant ou l'enfant de votre conjoint. Ça veut dire que vous pouvez manquer du travail pour vous occuper de l'enfant du conjoint qui, lui, peut aller travailler, dépendant du meilleur salaire, bien évidemment. Il y a des gens qui vont plutôt sacrifier le salaire moins élevé. Alors, au-delà de 2 jours. Alors, voilà.
Maître Bellemare, comment se fait-il que le premier ministre du Québec, François Legault, dise « Adil Sharkawi, les mots qu'il a prononcés devant une foule de plusieurs milliers de personnes, je trouve ça inquiétant et je m'attends à ce que la police fasse son travail. » Comment se fait-il que la police de Montréal a regardé un peu l'affaire Adil Sharkawi, son discours? On entend très bien que dans son message, il mentionne aux siens d'aller tuer les autres. Puis là, ben, la police de Montréal dit « Ouais, non, nous autres, on va transférer le dossier à la Gendarmerie royale du Canada. » Pourquoi la police de Montréal n'est pas capable de faire sa job?
Ben, moi, j'appelle ça du niaisage, là. Parce que c'est clair, quand on lit le texte du discours prononcé publiquement et filmé, hein, « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes », donc on parle des Juifs, on parle d'Israël, « Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza », puis même ça peut peut-être aller au-delà de ça, parce que les ennemis du peuple de Gaza, est-ce que ce seraient les Américains puis les Canadiens parce qu'ils ont appuyé Israël dans sa démarche, presque au complet, « Recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux ». Si ça, c'est pas une incitation à la haine, je me demande ce que c'est. Alors, on a tout, on a les images, on a le texte. Il n'y a aucun doute raisonnable, à mon avis, ici, et j'appelle ça du niaisage. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce gars-là n'a pas été accusé en date d'aujourd'hui et éventuellement accusé d'un acte criminel, donc d'incitation à la haine. Alors là, ça a été la police de Montréal, j'imagine, qui a regardé ça au début. J'imagine que la Sûreté du Québec aussi a regardé ça. conjointement avec la Ville de Montréal, le SPVM. Et là, on est rendu à Ottawa, on a envoyé ça à GRC. C'est du niaisage. Et est-ce que c'est parce que les autorités policières ont peur d'en faire un martyr? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de mettre de l'huile sur le feu? Moi, je pense que c'est pas le rôle de SPVM, de la police de Montréal, de la Sûreté du Québec, des corps policiers, d'évaluer les impacts sociaux et politiques d'une démarche comme celle-là. Si un crime haineux, une incitation à la haine qui a été commise, il faut qu'il y ait des accusations, il faut que ça soit sanctionné. Puis au contraire, plus on attend, plus on montre que finalement on est des peureux, qu'on laisse passer, qu'on est tolérant, puis qu'on bouge pas, et là, il risque d'en avoir davantage. Alors là, la semaine dernière, c'est le pont Jacques-Cartier qui est bloqué à Montréal par des manifestants. Une autre attitude absolument inacceptable. Et en date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait annoncé que des accusations ont été portées pour ce genre de méfaits-là. Mais je veux juste te dire aussi que au Québec, bloquer un pont, ça a l'air que c'est pas trop, trop grave. Je me souviens, le blocage du pont-tunnel, je sais pas si tu te souviens de ça, les farfadas, là, farfadas, là, qu'il y avait...
Les farfadas.
Les farfadas, là. Les Alors, il y en a un qui s'est... Il y en a qui s'en sont tirés avec 120 heures de travaux communautaires. C'est grave, hein? Tu bloques le tunnel Hippolyte, là, le tunnel le plus... Un des tunnels les plus importants au Canada, sinon le plus important.
Ouais.
Pour des raisons rattachées aux mesures sanitaires. 120 heures de travaux communautaires. Puis il y en a un autre aussi parmi eux là, qui a été jugé, qui a été condamné, un procès dans lequel le psychiatre Mayou a témoigné pour dire qu'il fallait éviter la prison. Mais là, le juge va se pencher. Puis normalement, on devrait avoir une réponse au cours des prochaines semaines parce qu'on nous a annoncé un jugement pour la fin novembre là-dedans, mais la Couronne demandait 6 mois. Écoute, on n'est pas dans les ligues majeures du sentencing, là. 6 mois pour avoir bloqué le pont, le tunnel Hippolyte. Alors, les gens qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier la semaine dernière, est-ce qu'ils vont être accusés? Est-ce qu'au Québec, au Canada, c'est grave de bloquer un pont en plein, un des ponts les plus importants? Probablement le plus important, c'est le pont Jacques-Cartier.
Oui.
3 kilomètres, je pense, de long, en pleine heure de pointe, une journée ouvrable. Est-ce que c'est important? Alors, moi, je trouve qu'on est mou à 100 000 à l'heure, puis ça me révolte. Les pertes financières attachées à ça sont immenses. Tous les gens qui arrivent en retard au travail, l'économie de la métropole qui est sanctionnée vivement, l'impatience, l'énergie, le gaz qui brûle sur le pont par tout le monde qui attend, des milliers de véhicules qui sont bloqués. Écoute, puis le conflit n'est pas réglé à Gaza, là, ça va durer peut-être des mois, peut-être des années. Alors, quand est-ce que ça va finir? Je pense que le gouvernement et les autorités policières et le DPCP devraient réagir spontanément dans les 24 heures dans ces situations-là et accuser et faire en sorte qu'il y ait des peines plus sévères qui soient obtenues. Parce que là, c'est vraiment le Far West.
Non, juste revenir sur le dossier d'Adil Sherkaoui. Là. Des fois, je me dis, si ce gars-là s'était appelé Gaétan Tremblay, là, est-ce que ça ferait longtemps que les policiers de la ville de Montréal l'auraient interrogé? T'sais? On lui aurait mis les menottes. Viens faire un tour de voiture, on a quelque chose à te dire. T'sais, comme c'est Adil Sherkaoui, comme c'est un membre des communautés qui... sont des fois opprimés par les autres. On fait plus attention. T'sais, moi, j'aime beaucoup votre hypothèse de « on veut pas en faire un martyr ». J'aime beaucoup cette hypothèse-là parce que ce gars-là semble agir à titre de gourou pour certaines autres personnes. Puis, quand il s'adresse à une foule de milliers de personnes, une foule peut jamais être plus fort que son maillon faible. T'sais. Puis le maillon faible va-tu faire exactement ce qu'Adil Sherkaoui dit? Puis si jamais il fait pas là, puis il apprend que son maître à penser a été est dans une voiture de police, comment cette personne-là va réagir? Tandis qu'avec la Gendarmerie royale canadienne, on dirait que c'est un corps de police qui est un peu plus loin. On n'a pas toujours l'impression d'y voir sur notre territoire. C'est un peu moins... en fait, c'est un peu plus abstrait. Il y aurait peut-être des possibilités que, je sais pas, on allumerait peut-être un peu moins le feu si on confie ça à GRC, puis la GRC fait son travail, plutôt
peut-être,
que de la police de Montréal.
Mais on perd du temps, puis on monte notre mollasserie On montre notre peur, on montre notre manque de leadership dans la répression de ce genre de crimes. Extermine-les tous, Yann, là, c'est un appel au génocide. Là,
carrément.
C'est pas... On se croirait au Rwanda ou on se croirait dans les époques hitlériennes.
Puis il y a une bonne communauté juive à Montréal. Une bonne communauté juive à Montréal.
Ben oui, puis je trouve ça incroyable. Ça se passe dans la même communauté et c'est les mêmes extrémistes pour la même cause qui vont bloquer le pont Jacques Cartier. Puis je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Avoir l'absence de réaction, la tolérance des autorités policières face à ce genre d'événements-là, je suis très inquiet. Et je pense que ceux qui ont en tête de faire plus que ça, d'attirer l'attention d'une quelconque façon, du terrorisme, des bris, du méfait public, vont être validés dans leur choix. Et l'absence de répression immédiate dans des cas aussi clairs m'inquiète grandement, surtout pour la région de Montréal. Je peux pas croire que Valérie Plante dort bien ces jours-ci. J'imagine qu'elle doit être inquiète pour l'avenir. Puis là, on rentre dans une période sombre. On est en novembre, les gens sont fatigués. C'est une période de l'année qui n'est pas facile, c'est gris. Et le conflit à Gaza, évidemment, on le sait, va probablement durer encore un bon bout de temps. Fait que je te le dis, là, attends-toi à ce qu'il y ait des flamèches encore dans la métropole.
Oui, mais comme vous dites, il faudrait que la police fasse son travail, puis peut-être aussi que le premier ministre durcisse le ton. Là. Je comprends que la police doit être indépendante de ce que les ministres peuvent dire, de ce que le premier ministre doit dire, mais en même temps, ils doivent travailler avec une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte chez nous et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Puis je pense que les Juifs sont tout aussi importants que les Palestiniens. Les Palestiniens sont tout aussi importants que les Juifs. Puis que chez nous, ben, tout ce monde-là sont supposés de bien s'entendre ensemble. T'sais, peut-être qu'il pourrait y avoir un tri aussi là, pour ce qui est de l'immigration. Moi, je suis pro-immigration. Je trouve ça intéressant, un mélange de cultures et tout ça. Mais quand ces gens-là viennent chez nous, il faut qu'ils comprennent qu'ici, il n'y a pas de frontières, là. Vous habitez dans la même province. Accordez-vous ou sinon, vous retournez dans vos endroits où il y aura des frontières bien déterminées. Puis ça, ce sera votre peuple-là. Puis ça, ce sera votre peuple-là. Puis si la chicane pogne, ben, vous enverrez vos affaires vous-même. Mais ici, faut empêcher le plus possible qu'il arrive ce qui arrive là. C'est-à-dire des gens qui sortent des rues, qui se confrontent, qui se tirent des trucs, qui se battent, qui appellent au génocide de l'autre côté. Je ne comprends pas comment ça le premier ministre intervient pas plus que ça. Vous venez chez nous, vous venez en paix ou vous retournez chez vous. That's it.
Oui, puis tu vois Trudeau qui n'est même pas comme manger au restaurant dans l'Ouest canadien, à Vancouver, où il est pris à partie par des manifestants de façon très violente. Il y a eu aussi l'échauffourée à l'Université Concordia. Mais dans certains cas, c'est pas facile d'identifier les gens qui ont participé à l'événement. Mais dans le cas de Charkaoui, on a un film, on a des mots, on a du son, on a tout ça. Ça fait 2 semaines, il se passe rien. Alors, tu sais, c'est inacceptable. Alors, tu sais, puis dans le cas de bloquer le pont Jacques-Cartier, on a des images aussi. Ces gens-là sont retraçables. Il y a des gens qui ont donné des entrevues pour dire pourquoi ils bloquaient le pont Jacques-Cartier. Tu sais, à un moment donné, tu peux-tu aller chercher quelques têtes sans nécessairement aller chercher l'ensemble, mais au moins quelques personnes. Puis tu sais, le choix, la police qui veut pas ci, qui veut pas ça, c'est pas son rôle, Yann. Le rôle de la police, c'est de faire appliquer le code criminel. Le code criminel prévoit que des discours haineux, d'incitation à la haine, c'est pas acceptable au Canada. Ça a été voté par la Chambre des communes, c'est dans notre code criminel depuis toujours. Alors, la police, son rôle, c'est pas de commencer à légiférer puis à se demander si c'est une bonne idée puis si c'est une bonne idée d'accuser. Son rôle, c'est d'accuser lorsque le code criminel est violé. Et dans ce cas-ci, il y a des exemples assez flagrants, à mon avis.
Dernier sujet de la soirée, Maître Bellemare. Avez-vous quelque chose, vous, contre le prince Charles qui est devenu le roi maintenant? Tout le monde semblait aimer Élisabeth et avec raison. Si vous avez suivi l'histoire de la reine Élisabeth II, c'est une personne qui a pris la couronne très tôt. Elle a fait face à une multitude de conflits dans le monde. Elle est passée au travers de plein de choses. Puis les gens semblaient avoir une bonne opinion de la reine Élisabeth, puis avec raison. De l'autre côté, Charles, je ne sais pas si c'est la fameuse série sur la monarchie qui a été mise au cinéma, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Son image ne passe pas, puis tellement qu'elle passe pas, on veut même plus l'avoir sur nos pièces.
Ben oui, c'est ça. Écoute, la question de la monarchie à l'occasion du décès d'Élisabeth II, il y a eu un sondage léger qui a été publié. 14 % de la population des Canadiens, pas juste des Québécois, 14 % des Canadiens ont un attachement à la monarchie. Puis j'imagine que c'est surtout les Anglais là, qui sont attachés beaucoup plus qu'au Québec. Au Québec, c'est certainement moins que ça. Alors, il y a un débat qui doit être fait, mais évidemment, Justin Trudeau, qui a peur de son ombre, ne veut pas embarquer là-dedans parce qu'il a peur de perdre encore plus de plumes qu'il en a perdu jusqu'à maintenant, puis Dieu sait qu'il en reste pas grand, il en reste pas beaucoup sur le dos. Alors là, il a validé les nouvelles pièces de monnaie sur lesquelles on va mettre la face de Charles III. Alors, ça aurait été une belle occasion, tout en gardant l'institution qui est le gouverneur général à Ottawa, unilingue anglophone, il faut le rappeler, et les lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces. On peut garder ces institutions-là, on peut garder la citadelle, on peut garder les résidences officielles, mais est-ce qu'il fallait aller jusqu'à mettre la face du roi Charles III sur les pièces? Évidemment non, c'est pas nécessaire. On aurait pu mettre un symbole canadien, une feuille d'érable, la tête d'une personne importante dans l'histoire du Canada ou du Québec. On aurait pu avoir une pièce de monnaie qui aurait pu faire voyager des symboles canadiens, des symboles d'unité. J'imagine qu'il y en a. Il y en a peut-être moins qu'aux États-Unis, mais il y en a certainement. Nos épopées militaires, nos services militaires, des gens importants qui ont façonné l'image du Québec et du Canada, mais non, on va mettre Charles III. Je comprends pas pourquoi, Yann, honnêtement, qu'on va, alors que le gouvernement est conscient du fait que les Canadiens sont pas d'accord, aller jusqu'à imprimer la tête du monarque sur les pièces de monnaie, ce qui est pas une nécessité. Alors, je pense qu'on a manqué là une belle occasion de respecter l'opinion populaire. On est préoccupé par la démocratie. On a parlé beaucoup dans le cas du tramway. Les gens sont d'accord ou pas d'accord. Les gouvernements sont là pour respecter la population. Dans une question aussi philosophique que celle de l'importance de la monarchie au Canada, je pense qu'on avait là l'occasion au moins de s'abstenir, c'est-à-dire d'enlever la face de la reine ou même de la garder à la limite, mais de pas changer ça. Mais là, on pose un geste positif, concret, en mettant la tête de Charles III. Honnêtement, je pense que ça va être mal perçu par la population. Puis je pense que Trudeau, encore ici, vient de faire preuve d'un manque de jugement.
Avez-vous encore de l'argent en cash, Maître Bellemare?
Ben oui, ça arrive, monsieur.
Ah oui?
Moins qu'avant, évidemment, mais ça arrive des fois.
Avez-vous encore de la monnaie dans vos poches?
Oui, j'ai de la monnaie dans mes poches, puis je paye mon café chez McDo avec des sous.
Ça trahit votre âge. Ça trahit votre âge, Maître Bellemare. Moi, maintenant...
Ben oui, je le sais.
Maintenant, là, tout est dans mon cellulaire, Maître Bellemare. Mes cartes sont dans mon cellulaire. J'ai plus de monnaie. C'est le paradis, Maître Bellemare. La seule affaire qui me reste à éradiquer, c'est les ustensiles en bois. Je suis plus capable de les voir, les ustensiles en bois. Là. Quand on me fait manger avec des ustensiles en bois, je panique. Mais pour le reste, là, j'ai tout éradiqué mes cartes. J'ai tout éradiqué ma monnaie. C'est mon portefeuille. Mon portefeuille, c'est mon cellulaire. Dieu merci, je suis rendu là, je ne verrai pas la face de Charles III.
OK, je comprends. Mais moi, des fois, il y a des gens qui payent en argent ici, les consultations. Ça arrive peut-être une fois sur 10.
OK.
Encore des gens qui payent en argent, fait que cet argent-là, évidemment, est dépensé. Puis, quand il n'y en aura plus, j'en dépenserai plus. Mais pour l'instant, c'est encore une réalité. Ouais. Mais tu sais qu'un jugement qui est sorti la semaine dernière, qui a fait en sorte que les mesures fédérales en interdisant l'utilisation du plastique à usage unique ont été cassés, été annulés. Alors, ce qui veut dire que, techniquement, on peut encore recouvrer nos pailles en plastique, nos sacs en plastique, mais compte tenu que la plupart des commerces se sont débarrassés du plastique,
ils ont
changé leur procédure, d'achat, qu'on va garder les mêmes mesures.
Attendez un peu, là. Les épiceries se sont débarrassées des sacs de plastique gratuits. Puis ils nous vendent leur propre sac maintenant. Puis si vous voulez ramasser les popos de votre animal favori, maintenant vous devez acheter des sacs spécialisés qui valent beaucoup plus cher et qui sont plus épais que ceux qu'ils vous donnaient à l'épicerie. Mais moi, juste éradiquer les ustensiles en bois, ça va me faire plaisir, Maître Bellemare. Je suis rendu. C'est mon prochain combat. C'est mon prochain combat de la vie.
Tout le monde y trouve son compte dans le plastique, sauf le consommateur.
C'est ça. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca.
Absolument.
Un gros merci.
24h24.
Un gros merci pour votre chronique ce soir. On se rejase lundi prochain, cher ami.
Merci Yannick, bonne semaine.
Merci.
Bonne semaine tout le monde.
Bonne semaine. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée, puis on se retrouve demain, mardi, pour ce qui est de Marceau le midi à partir de 11h. Bye bye.
Marceau le soir.
Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Né rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée!
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins, du Journal de Québec et de Boulevard 102.1.
Bon, vous le savez, il était temps que les choses changent. Une découverte récente, je dirais même une percée en matière d'évolution, est à nos portes. En fait, aux portes du Yuzu, près de chez vous.
Monsieur, qu'est-ce que vous essayez de nous annoncer au juste?
Yuzu lance une exclusivité au Québec. Un saumon certifié sans antibiotiques. Enfin, un saumon savoureux, gourmand et vraiment bon pour vous. Une bonne nouvelle pour l'avenir. Là, pour y rester. Yuzusushi.ca.
Chez Lunetterie Bélan, le Black Friday va vous rendre fou. Obtenez-en plus et payez moins. À l'achat d'un certificat cadeau, votre achat sera bonifié. Quantité limitée, certaines conditions s'appliquent. Voir les détails en magasin. Lunetteriebélan.com. Marie-France Proux, opticienne.
Vous œuvrez auprès de jeunes issus de divers horizons culturels. Le 22 novembre, participez à une journée unique avec le sommet Résonance au Centre de foire de Québec. Ateliers interactifs, conférences avec Corneille, prestations artistiques, panel de jeunes experts et apéros de réseautage sont au programme. Vivez un événement de partage et d'apprentissage sur le vivre ensemble, centré sur l'intervention interculturelle auprès des jeunes. Inscrivez-vous gratuitement au motivactionjeunesse.com. Ensemble, faisons rayonner le changement. Ça commence le 22 novembre au sommet Résonance.
L'appli Boulevard 102.1 pour écouter en direct le rattrapage des émissions et des podcasts. Au gym, à shop, puis même dans ta douche. L'appli Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants, au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au train-train quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez le BZ4X, présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota. Et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Les offres du Vendredi fou sont en cours au Sibéria. Jusqu'au 27 novembre, achetez un accès au bain, en soirée, à partir de seulement 25 $. Détails et autres promotions au siberiaspa.com.
Vivez en toute quiétude, car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
C'est le temps de réserver votre place au Pacini, Le Bourgneuf et Sainte-Foy pour votre party de Noël. Une section lounge pour les groupes de 100 personnes et des salons privés de 10 à 40 places promettent une ambiance festive et chic. L'équipe professionnelle est prête à vous accueillir. Pacini, Le Bourgneuf et Sainte-Foy.
Boulevard 102, la radio positive de Québec.
Moi, le retard des gens, c'est quelque chose qui me gosse au plus haut point, là.
Ah, bref. On parlera pas de ça longtemps, là, ça me tente, ces gens-là, je suis plus capable.
Les comités de comédie musicale, organiser les balles de fin d'année.
Non. Non. Quand on va parler sport, là, ma gang de gros jambons, plus capable. Hey, man, plus capable.
J'ai une idée.
Moi, ce gang-là, je me tenais loin. Ah, ouais. Oh, oui.
C'est pas vrai. On chiale des fois, mais juste quand ça vaut la peine.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
En toute sobriété. Avec Maxime Lefebvre, animé par Catherine Bachand.
Bienvenue au premier épisode du podcast En toute sobriété. Mon nom est Catherine Bachand. Je suis en compagnie de Maxime Lefebvre. Bonjour, Max.
Bonjour, Kat.
Je dois te dire que, Max, je suis très fébrile d'être ici aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on puisse faire ensemble un peu la genèse de ce projet-là, qui, dans le fond, est né de ton expérience et aujourd'hui, t'as choisi de te livrer de façon vraiment plus publique. En toute sobriété, d'où ça vient?
En fait, c'est que j'ai reçu quelques demandes sur Internet. Ben, j'ai un parcours avec une dépendance qui était là depuis maintenant, ça va faire 5 ans, je pense, 6 ans même, quasiment. Puis au début, j'étais gêné un peu de ça. Puis là, au fur et à mesure que tu apprends en thérapie, tu expliques que d'en parler, c'est déjà une très bonne chose. D'un, d'être capable de le dire. Fait que j'ai commencé comme ça, puis avec des posts sur Facebook et Instagram, les gens sont venus me demander des questions. D'un, OK, t'as fait des thérapies, t'en es-tu sorti par toi-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit d'y aller? Fait que j'avais de plus en plus de questions ou de commentaires. Jusqu'à quelqu'un qui m'a écrit, m'a dit, hey, j'ai un mois de sobriété, j'ai vu que t'étais là-dedans un peu, c'est cool. Puis c'est juste des gens qu'on a, on va dire, des amis Facebook ou Instagram, mais souvent c'est plus des connaissances.
Ouais.
Puis je me suis juste dit, à longue de voir ça, puis moi j'avais personne dans le temps pour m'aider. À ce moment-là, tu sais, j'avais pas aucune personne à qui me relier ou demander des conseils, quoi que ce soit. Fait que je me suis comme aidé par moi-même plus les thérapies. Fait que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut aider les gens, mettons, comme on s'est dit la première fois, la fameuse mère monoparentale, qui en ce moment struggle un peu avec, elle pense qu'elle a un problème de dépendance, elle travaille 40 heures semaine, s'occupe des enfants, tu sais, elle sait pas trop vers quoi qu'elle se lance, ça va pas bien dans sa vie, mais elle sait pas qui peut l'aider puis comment. Ben, si moi, juste à travers ce podcast-là, on peut juste aider des gens comme ça, soit qui se posent des questions ou qui sont convaincus qu'ils ont une dépendance mais qui savent pas quoi faire ensuite, tu sais, la première étape, c'est de l'accepter. Une fois que c'est fait, après, bon, parfait, on fait quoi, tu sais? Fait que je pense que c'est un peu pour ça. Puis dans toute sobriété, le nom est comme sorti naturellement avec Val, la fille qui s'occupait justement de la publicité quand je travaillais à Weekend Radio puis à Boulevard, celle qui s'occupait du côté créatif. J'ai envoyé mes idées de base de qu'est-ce que j'allais faire. Puis le premier mot qu'elle a sorti, c'est en toute sobriété. Fait que je trouve que c'est comme parfait.
C'est tout à fait à propos.
Ouais, c'est exact. Puis c'est drôle de boucler la boucle comme ça parce que j'ai commencé mon parcours de dépendant vraiment chez Weekend puis Boulevard Radio. Chez Leclerc Communication, en fait, puis là, d'enregistrer dans les studios de Leclerc Communication par rapport à ça, je trouve que c'est comme une belle boucle là, qui se complète.
Ouais. Ben, parlons-en, justement, parce que je pense que pour pouvoir mettre la table pour la suite des choses qui s'en viennent, on n'a pas le choix de revenir en arrière et de que tu puisses nous expliquer comment ça a commencé pour toi. Tu as commencé en nommant, d'entrée de jeu, que peut-être que la dépendance a débuté alors que t'es, il y a quelques années, tu travaillais ici pour Leclerc Communication.
Ouais. Ben écoute, je pense que tout a parti. Tu sais, tout le temps, les dépendances, ça part depuis qu'on est jeune, des choses comme ça. Moi, il n'y a eu aucun problème, ma jeunesse. J'étais allé à l'école privée au primaire, j'étais allé à l'école privée au secondaire, j'ai fait le programme sport-études hockey. Ma famille, on est hyper proches. J'ai une sœur, je suis en amour avec. C'est une relation incroyable de frère-sœur.
Donc, l'espèce de cliché qu'on peut avoir de quelqu'un qui a une enfance trouble et qui veut s'engourdir à travers de la consommation, toi, c'est pas ça.
Pas en tout. J'ai commencé à boire comme tout le monde, comme jeune. Même nous autres, on a commencé plus tard, vers 16, 17, 18 ans, parce qu'on jouait au hockey aux États-Unis chaque fin de semaine pour le prep school. Fait que c'était comme, on faisait des parties, puis c'est chez nous qu'on les faisait souvent. Tout simplement, c'est là qu'on a commencé à boire. Mais non, il n'y a rien qui aurait pu dire, tu sais, ah, mon père me battait ou ben ma mère avait des problèmes de consommation. Tu sais,
pas d'historique dans ta famille non plus.
Malheureusement, dans le sens, j'en vois beaucoup à qui c'est arrivé. J'ai croisé en thérapie qui ont des parcours d'horreur. Puis je me dis qu'ils s'en sortent comme ça, c'est impressionnant. Comme au début, je banalisais quasiment ma situation dans le sens, si je vais être capable de m'en sortir facile. Puis j'en ai pas de problème parce que j'ai pas eu à vivre ces choses-là au passé, alors que. En fait, chaque personne atteint sa limite. Il y en a que c'est plus loin, il y en a que c'est moins loin. Mais c'est quand ça a un impact dans ta vie réelle, sur le travail, sur ta famille, sur tes activités, c'est là que tu te dis, ben, je suis au bout du rouleau. J'étais à la même limite. Puis, fait que ça a commencé tout simplement comme ça. Moi, ça allait bien mes affaires. J'ai joué au hockey en France, semi-professionnel pendant 3 ans. Puis après ça, quand je suis revenu, je pense que c'est là que la déchéance a commencé. Je me suis cherché. Je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, il faut que je revienne parce que j'allais à l'école. J'avais juste un secondaire 5 puis 3 cours de cégep de passer. Là-dessus, c'était 2 éducations physiques. Fait que c'était pas. là-dessus, notre prof d'éduc, c'était notre coach hockey. Fait que tu sais, aussi bien ça, j'ai passé un cours en un an de cégep. Fait que, mais tu sais, j'ai toujours eu un. Je pense pas un problème d'alcool, mais j'aimais boire. Puis j'allais souvent loin, mais rien à tout casser. Tu sais, c'était un peu comme une jeunesse se fasse, comme on dit. Fait que. Mais avec du recul maintenant, je réanalyse des fois des situations et des choses qui est arrivées que ça aurait été des petites pointes, tu sais, manquer un rendez-vous important ou des choses comme ça que oui, c'est banal à 18, 19, 20 ans, mais quand tu prends du recul, tu vois qu'il y avait déjà un petit quelque chose. Mais...
quelque chose qui est à la fois rigolo, tu sais, on en riait, je me suis tellement défoncé que je suis passé tout droit, mais que pour toi, en rétrospective, ça aurait pu être des indices.
Juste un exemple banal comme ça, on est en France, ma soeur a fait de la danse jusqu'à un certain niveau-là, quasiment professionnel, puis danse à Disney Paris.
Wow.
Au même moment que moi, j'étais joué au hockey en France. Tu sais, ma famille, dans ça, là, j'y vois aux 3 mois, là, à peu près. Là. On a tout le temps une coupure aux 3 mois, soit que je reviens à Noël ou que ma famille monte me voir, mais peu importe. Fait que là, j'arrive, je m'en vais, là, je suis supposé la voir, mettons, c'est le samedi matin. Fait que moi, je suis supposé partir le matin, mais la veille, je sors. J'ai 22, je pense, à ce moment-là, j'ai 22. Je sors, je me réveille pas le lendemain matin, je manque mon train. Tu sais, je vois ma soeur, ça fait 3 mois que j'ai pas vu, puis comme j'ai dit, j'ai une belle relation avec, vraiment. Fait que là, je me réveille, je suis en sursaut, qu'est-ce qui se passe? Et je suis où, il est quelle heure? Et ni un ni deux, je m'habille, je prends la douche, je m'habille, je pars. Je m'en vais à la gare, puis je prends le premier train en direction de Paris. J'achète pas de billets, ils m'arrêteront, puis avec l'accent québécois, je vais m'arranger dans le train, mais je peux pas. Mais tu sais, je suis arrivé à peut-être 2-3 heures l'après-midi, au lieu d'arriver à 9 heures le matin, passer la journée avec ma soeur, la voir faire son show de danse là-bas, tu sais. Sur le coup, ça te fait chier, ça reste tel que tel, mais tu vois, plein de petits événements comme ça, je pense qu'à travers de mes dernières années, avant de vraiment plonger, c'est des choses qui font dire que j'avais un problème d'alcool, tu sais, mais je l'acceptais pas.
Puis dans un milieu de sport professionnel, semi-professionnel, l'image que j'ai, l'histoire que je me raconte, c'est que on prend un coup, on est une gang de boys, on en dévisse une dans la chambre. Tu sais, est-ce que c'est comme ça? C'est-tu la consommation? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans les mœurs, mettons?
Oui, mais c'est sûr que oui. Puis même, on avait des amendes en France, mettons, exemple. Ça, c'est drôle, t'arrives avec un gilet rose. D'une amende.
Okay.
Ouais. Mais les amendes en France, dans notre équipe, c'était amener un pack de bière, comme il appelait. Fait que t'arrivais, mettons, en retard, un pack de bière. Fait que tu sais, d'emblée, c'est ça qui. C'est après les matchs quand même, là, je veux dire, puis on buvait pas la semaine pendant les pratiques, quoi que ce soit. C'est quand même. C'était rigoureux, puis tout. C'est juste que oui, dès qu'on finissait la game, là, les bières que du monde a amenées durant la semaine pour X raisons, pour les retards, peu importe, ben là, ça embarquait là-dessus. Fait que c'est sûr que oui, tu bois après chaque game. Puis après ça, tu sors, surtout si on avait un bon club, nous autres, on a gagné, mais on est passé en division 1. Fait qu'il y en a eu des festivités, puis on a bu, Fait que, mais tu sais, encore là, je consommais même pas, j'avais jamais consommé de drogue vraiment, à part des joints par-ci par-là, 3-4 fois dans ma vie.
Quelque chose de très récréatif.
Ouais, comme tout le monde a déjà fait, je pense, à partir de 15 ans, une fois, puis c'est tout. Fait que j'avais jamais touché à de la drogue de ma vie avant de revenir de la France. Fait que tu sais, c'était toujours juste de l'alcool. Je buvais beaucoup. Pas beaucoup, mais quand je buvais, j'avais pas de faim, tu sais. Ça a pas mal toujours été parce que j'aimais le goût de l'alcool. Tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup que j'entends qui boivent parce que en dedans, sont gênés. C'est des personnes vraiment fermées sur eux-mêmes puis ça les aide à s'ouvrir. Moi, j'ai juste deux fois plus drôle, j'ai deux fois plus de niaiserie, mais ça, je prenais pas ça pour devenir une autre personne, mais j'aimais tellement le goût que, voyons, je vais en prendre un autre, j'aime ça. Je vais en prendre un autre. Tu sais, j'essayais plein d'affaires différentes, plein de sortes de phares différents parce que, justement, j'aimais le goût. Fait que je pense que tu t'en rends moins compte que tu bois parce que tu as des problèmes à régler, vu que... Mais non, je prends ça parce que j'ai du fun dans la vie.
C'est sûr que l'alcool, ça fait baisser les inhibitions. C'est un bon lubrifiant social aussi. Mais ta personne... Parce que moi, je te connais quand même depuis quelques années, Max. Tu as une personnalité déjà qui est très, très pétillante puis qui va vers les gens. Est-ce qu'à cette époque-là, tu étais déjà cette personne-là?
Oui, c'est sûr. J'ai toujours voulu être le centre d'attention côté humour, je dirais. Parce que j'aime voir les gens sourire. Dans la vie, moi, je suis beaucoup, beaucoup l'humain. C'est pour ça que je retourne en vente d'ailleurs, parce que ce que j'aime le plus, c'est le côté humain, c'est les relations humaines. Je suis proche des gens, j'aime ça savoir comment ils se sentent. Puis j'aime ça que tout le monde autour de moi soit heureux. Puis ça m'a nui à long terme, parce que souvent, justement, c'est une des raisons pour laquelle je buvais. J'ai réalisé c'est que mes émotions, moi, j'ai gardé tout en dedans. Puis c'était toujours la fierté à sortir. J'étais beau, je suis plus grand, je suis plus fort. Tout le monde est content autour de moi, tout le monde va bien. Mais tu sais, moi, en dedans, au bout du compte, c'est moi que je grugeais un petit peu à chaque fois. Okay. Mais oui, j'ai toujours eu cette personnalité-là. Puis, tu sais, c'est ce qui fait ma force dans la vie. Mais autant que monnaie, c'est devenu nocif, tellement que je voulais bien paraître. Puis c'est drôle, j'ai lu quelque chose dernièrement. C'est comme par rapport au paraître, justement. Avant, c'était ce que les autres allaient dire de moi. Mais tu sais, ça veut pas. C'est juste que là, à cette heure, c'est d'être fier de moi, le paraître. C'est plus pour montrer aux autres, mais c'est pour être fier. C'est plus ça la différence, la connotation différente. Tandis qu'avant,
la relation à soi-même.
Oui, exact. Tandis qu'avant, c'était vraiment pour ce que le monde allait penser de moi. Tandis que maintenant, c'est juste une fierté personnelle. Tu sais, mettons, je m'habille bien. Je veux bien m'habiller, je veux être gentil. C'est parce que c'est pour moi, je veux être fier. C'est la personne que je suis et non. Qu'est-ce que les autres vont dire?
Okay.
Fait que j'ai bu en France normalement, mais quand même beaucoup. Puis c'est quand je suis revenu que là, j'ai eu le petit manque de l'adrénaline, on dirait. Puis j'ai lu le livre d'Étienne Boulay. Puis ça m'a chamboulé complètement parce que j'étais comme, tu remplaces le mot football par hockey dans son livre, c'est ma vie. C'est littéralement ma vie.
Tu t'identifies beaucoup à ça.
C'est incroyable. Puis
quand tu reviens de la France, on est à peu près en quelle année?
2014.
Quel âge as-tu?
24 ans.
24 ans.
Ouais.
Donc, toute ta vie, ça a beaucoup été le sport compétitif de très haut niveau. Et puis là, tu rentres au Québec à 24 ans.
Ouais.
Est-ce que tu fais encore du hockey?
Oui et non. J'avais de la misère à trouver des ligues que j'avais du fun parce que moindrement que tu as un bon niveau, souvent dans des ligues à garage ici, ça va accrocher un peu. Ça va donner des coups de bâton. T'sais. Puis ça me manquait le côté compétition. Mais si je voulais jouer compétition, c'était senior. Puis senior aussi, c'est pas. J'ai joué une année à Donnacona parce que je savais que j'allais repartir en France l'année suivante. Mais sinon, tu sais, j'aime pas ce petit délire-là. Tu sais à quelle heure ça commence, tu sais pas à quelle heure ça finit.
Ouais.
Ça promouvoit beaucoup plus le contact physique, les combats, que. Tu sais, je suis arrivé là-bas, puis j'ai un de mes amis qui jouait dans l'équipe, m'avait dit on a beau gagner 7 à 1 avec 7 beaux buts, mais il y a 2 combats dans le game, les partisans vont être moins contents que si on perd 4-3, mais qu'il va avoir eu 7 combats. C'était pas la raison pourquoi j'aime le hockey. C'est pas pour ça que je joue, mais c'est correct qu'il y en ait.
Oui.
C'est juste qu'il y en a qui veulent continuer à jouer là-dedans, c'est bien correct. Il y a des très bons niveaux encore là-dedans. C'est juste que moi, mon plaisir au hockey, c'est de jouer. Fait que j'ai plus de plaisir à patinoire extérieur. Ça. Fait que ça c'est ce que j'ai fait à cette heure. Je joue beaucoup plus à patinoire extérieur que dans les grosses ligues encore. Fait que ça a été un gros manque. Ça a été dur à accepter aussi. La première acceptation, ça n'a même pas été mon problème de toxicomanie, c'est d'arrêter de jouer au hockey quand je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Ça.
Tu t'identifiais en tant que joueur de hockey?